Vous écoutez France Culture.
Au rendez-vous des politiques, nous recevons aujourd'hui Marisol Touraine, députée socialiste d'Indre-et-Loire, depuis juin 2007, déjà élue dans la même circonscription en 1997, vice-président du Conseil général d'Indre-et-Loire aussi et secrétaire national du Parti socialiste à la solidarité et à la protection sociale. Marisol Touraine, très présente, on s'en souvient sans doute, lors du débat à l'Assemblée nationale autour du projet de réforme des retraites. Alors avec vous, madame, nous reviendrons sur cette bataille, sur ses suites encore possibles. Nous parlerons aussi de l'actualité sociale dans son ensemble. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale a été voté fin novembre. On pourra parler aussi de questions de santé, vous les suivez de près. Journée internationale de la lutte contre le sida le 1er décembre cette semaine. Ou plan antidouleur mis en place en 2007, situation dans les hôpitaux, nous verrons. Nous vous demanderons bien sûr aussi de commenter les derniers événements survenus au sein de votre parti, le Parti Socialiste, les candidatures déjà annoncées, dont celle de Ségolène Royal, et la difficile mise en place des primaires pour l'élection présidentielle de 2012. Enfin, nous aurons le temps d'aborder d'autres questions de l'actualité nationale, européenne, internationale, toutes celles que voudront vous poser mes partenaires rassemblés autour de vous. Je vous les présente tout de suite. Bonjour, bienvenue à France Culture, Marisol Touraine. Autour de vous, donc, Marie-Vonne de Saint-Pulgent, qui est conseillère d'État, comme vous d'ailleurs, professeur associé à l'Université d'Aix-Marseille, Christophe Prochasson, historien, École des hautes études en sciences sociales, et Éric Mandonnet de l'Express, hebdomadaire partenaire de notre émission. C'est le rendez-vous des politiques. Dominique Rousset, nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à tous. Vous êtes, oui, je l'ai dit, conseillère d'État, vous êtes également normalienne et agrégée de sciences économiques. Voici pour le parcours. L'autre question, pourquoi faites-vous de la politique, Marisol Touraine? Et peut-être cela nous emmènera-t-il à vos origines, à votre passé, à votre père?
Écoutez, je pense que comme beaucoup de gens qui s'engagent dans la vie politique, il y a un moment où on a l'envie de peser concrètement sur des décisions et de s'investir pour qu'un certain nombre de réalités évoluent. C'est vrai, vous le soulignez, moi j'étais plutôt destinée à une carrière universitaire. J'étais d'ailleurs, c'est dans cet esprit-là que je suis entrée à l'école normale supérieure et puis j'étais amenée, parce que la politique m'intéressait et que je voulais de toute façon, en tout cas, travailler en relation avec la décision publique, j'ai été amenée à coopérer, à collaborer avec des responsables. Et il y a un moment où je me suis dit, mais au fond, plutôt que de simplement conseiller, j'ai envie, moi aussi, de prendre des responsabilités et d'assumer des responsabilités. Et c'est cela qui a motivé le fait que je m'engage directement et personnellement.
Donc vous avez été élu en région, c'est important, un mandat local, oui, avant d'en venir à d'autres fonctions, oui.
Oui, enfin, c'est-à-dire que j'ai été élu d'abord à un mandat national, en réalité, mais je crois que le mandat local est important parce qu'il permet très concrètement de voir comment un certain nombre de décisions s'appliquent. Et puis, aujourd'hui, il y a en réalité une complémentarité, pas une identité, une complémentarité entre les décisions locales et les décisions nationales. Moi, je travaille beaucoup sur la mise en place de politiques sociales dans mon département. C'est évidemment directement lié à un certain nombre de décisions ou de lois qui peuvent être votées. Mais la vie locale aujourd'hui, depuis la décentralisation, évidemment, ne se résume pas à la déclinaison d'une politique décidée ailleurs.
Alors, si j'ai mentionné votre père, c'est parce que nous le connaissons bien, France Culture. Il s'agit du sociologue Alain Touraine, qui a beaucoup parlé politique au cours de sa longue carrière, mais sans s'engager. C'était la raison pour laquelle je souhaitais vous faire...
Oui, c'est vrai, si je regarde les choses de façon un peu distante, pour autant qu'on puisse avoir de la distance à l'égard de son propre père, c'est vrai que c'est un des sociologues qui a le plus réfléchi à la politique, aux questions politiques, à la place de l'État. Et incontestablement, cela m'a marqué, cela m'a influencé, c'est-à-dire que j'ai grandi, j'ai été formée dans un univers qui s'impliquait et s'engageait politiquement. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée que l'on puisse mener une vie sans se préoccuper de l'autre, des autres, de l'ailleurs, d'autres pays, du reste du monde, était quelque chose d'impensable.
Christophe Rochasson, alors, pour poursuivre.
Rester sur ce chapitre-là, alors je sais qu'on ne transmet pas dans une famille une sensibilité politique, une sensibilité idéologique comme on transmet du patrimoine, mais tout de même, votre père Alain Touraine a été une des grandes figures de ce qu'on a appelé la deuxième gauche. Ce serait intéressant d'avoir un peu votre regard sur cette deuxième gauche qui aujourd'hui est faillée. Je pense particulièrement aux propos récents de Jacques Julliard qui a réitéré l'idée qu'au fond la deuxième gauche c'était fini, qu'elle avait disparu, que le rocardisme n'avait plus d'existence véritablement. Quel regard portez-vous sur tout cela, sur cet héritage-là?
Marisol Touraine.
Je ne partage pas cette analyse de Jacques Julliard, c'est-à-dire que la deuxième gauche a évidemment constitué un moment très important de notre histoire politique récente. Mais en réalité, elle renvoie à une tradition historique dans notre pays qui va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu deux mouvements dans le mouvement socialiste, les réformistes et ceux qui s'auto-appelaient plus révolutionnaires ou qui se voulaient plus proches du parti communiste quand celui-ci a été créé, ou des mouvements, plus étatiste. Et donc, au fond, cette deuxième gauche s'inscrit dans la lignée des Jaurès, des Blum, Mendès France. Et je pense que cette idée-là, cette conception de la politique, elle continue d'exister. Et d'une certaine façon, ce qui s'est passé au cours des 20-30 dernières années, c'est que beaucoup des thèmes qui avaient été mis en avant par Michel Rocard sont devenus dominants. Pas tous. Et tous n'ont pas réussi. Je pense notamment
à l'autogestion.
C'était plus ancien. C'est plus ancien. Mais encore que, au fond, aujourd'hui, on s'aperçoit que certains socialistes revendiquent la démocratie participative ou revendiquent l'économie coopérative. J'ai vu ça, par exemple, chez Arnaud Montebourg, ce qui est quand même le prototype de l'autogestion. Donc, c'est assez étonnant de voir des résultats là où on ne les attendait pas, de cette idée-là.
Est-ce que, pour personnaliser un tout petit peu les choses, est-ce que vous pensez que Dominique Strauss-Kahn serait l'héritier le plus direct de cette sensibilité-là?
Oui, je pense qu'en réalité, c'est assez drôle parce que c'est sans doute plus compliqué que cela. Dominique Strauss-Kahn, aujourd'hui, incarne en 2010 ce qui était porté par Michel Rocard et la deuxième gauche, c'est-à-dire la volonté d'articuler l'économie qu'elle social, de donner une place à l'expression des acteurs sociaux, les organisations syndicales, les associations, etc. Et en même temps, lui-même ne vient pas de cette tradition-là. Et à l'inverse, Martine Aubry, qui est directement issue de cette mouvance, évidemment à travers son père notamment, eh bien elle a fait la synthèse inverse. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus complètement se référer à l'idée de première ou deuxième gauche. Ce vocabulaire-là est un vocabulaire qui renvoie aux années 70, 80, 90. Mais aujourd'hui, ce clivage, encore une fois, qui existait au moment du guédisme, etc., jusqu'à le molettisme contre Mendès France... Bon, tout ce clivage-là, il se retrouve aujourd'hui entre ceux qui continuent de se revendiquer d'une politique plus étatiste et ceux qui pensent que, il faut davantage s'appuyer sur les relais de la société.
Encore une question sur ces grands héritages, Éric Mandonnet.
Oui, il y a un autre clivage qui taraude la gauche et dont on voit encore en ce moment l'actualité, c'est le clivage entre la gauche dite de gouvernement et la gauche... d'opposition, de protestation. Est-ce que vous craignez qu'après une longue période passée dans l'opposition pour la gauche nationale,
c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Cette gauche d'opposition finisse par imposer sa propre culture à la gauche dite de gouvernement?
Si par malheur la gauche devait ne pas remporter les prochaines élections nationales, c'est-à-dire la prochaine élection présidentielle notamment de 2012, le risque serait très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je fais plutôt l'analyse inverse, qui est que l'envie de gagner, mais l'envie de gagner parce que le sentiment d'une urgence à proposer aux Français, au pays, une autre politique, une alternative à ce qui est fait aujourd'hui. Cette exigence-là, elle aboutit à ce que les socialistes savent très bien qu'ils doivent concilier opposition et proposition, parce qu'au fond, tout parti a un devoir d'opposition. J'ai envie de dire, le jeu démocratique réside dans la confrontation. La droite est au pouvoir, mais elle conteste ce qui vient du Parti socialiste, notamment. Le tout est de ne pas en rester à ce débat-là, à ce schéma-là, et de proposer. Et moi, je suis donc plus, je suis confiante que l'exigence qui pèse sur nous d'accéder au pouvoir aboutit à ce que le travail de proposition devient dominant.
Oui, question de Marie-Vonne de Saint-Pulgent pour Marisol Touraine.
Oui, la gauche est dans l'opposition en ce qui concerne la politique nationale. En revanche, elle est majoritaire en ce qui concerne les gouvernements locaux. Donc, comment peut-on ne pas être un peu une gauche de gouvernement quand on gouverne effectivement toutes les régions sauf une, beaucoup, la plupart des grandes villes, une majorité de départements, enfin. Mais est-ce que, justement, ces grands élus locaux, on voit, par exemple, avec le cas de Gérard Collomb, etc., ne finissent pas par, d'ailleurs, constituer une espèce de parti dans le parti, avec des positions éventuellement qui sont justement inspirées par leurs fonctions locales.
C'est-à-dire, je crois qu'il y a pu y avoir à certains moments, au cours des dernières années, une sorte de, non pas d'opposition, mais de faille.
De clivage, en tout cas.
De petite faille entre les élus locaux et les élus nationaux, parce que les élus locaux avaient le sentiment que eux étaient en phase avec la réalité de la société et qu'ils ne se retrouvaient pas toujours dans les discours et la démarche
du Parti socialiste. Surtout, encore une fois, ceux qui sont à la tête de grands exécutifs.
Oui, comme grands exécutifs de départements, de grandes villes. Mmh. Mais en même temps, je ne crois pas qu'on puisse imaginer qu'aujourd'hui, la géographie du Parti socialiste s'organiserait avec, d'un côté, des grands barons locaux et, de l'autre, des élus nationaux qui seraient... déconnecté des réalités. Il me semble que depuis un an et demi, deux ans, justement, la force du Parti socialiste revient et qu'elle consiste à s'appuyer sur les résultats locaux pour aller vers des propositions nationales.
Alors, on va venir effectivement à ces propositions, on va venir aussi à la vie du parti. J'ai parlé d'événements, en tout cas, elle est assez agitée, on le constate les uns et les autres. Encore une question peut-être, Marisol Touraine, d'ordre plus autobiographique. Qui admirez-vous ?
Qui j'admire ? Mais beaucoup de gens. Heureusement, je trouve que beaucoup de gens. J'admire les intellectuels. Vous me direz, c'est aussi ça, ce que m'a transmis ma famille. J'admire des gens qui, en gros, arrivent à se projeter dans des parcours qui les dépassent. Et de ce point de vue-là, il y a des grandes figures politiques, intellectuelles. Mais il y a aussi des gens qui, au quotidien, je trouve, dépassent par leur action, je pense notamment aux professionnels de la santé dans les hôpitaux publics, par exemple, dépassent leur propre vie, leur propre vie quotidienne au service des autres. Et c'est ça que je trouve le plus admirable.
Eh bien, on va rentrer dans l'actualité. Par quoi souhaitez-vous commencer les uns et les autres ? Je vois Christophe et Prochasson déjà armés. On parle de quoi ?
Il y a beaucoup de questions qu'on a envie de poser, mais évidemment, il y en a une qui a ressurgit ou qui commence à ressurgir avec les dernières déclarations de Ségolène Royal qui concernent les primaires. Alors, on aimerait bien vous entendre aussi à ce sujet. On avait le sentiment que depuis quelques mois, Martine Aubry était parvenue à ressouder un peu le Parti socialiste, à lui donner un nouvel élan, à le remettre en ordre de bataille. Et puis, un peu patatras, on sent que la perspective des primaires risque de faire voler un peu en éclats tout ce bel édifice. Qu'est-ce que vous pensez de ces primaires ? Est-ce que vous pensez qu'au fond, c'était une si bonne idée que cela et qu'on ne risque pas là de retrouver le Parti socialiste comme son électorat n'aime pas le voir ?
Vous avez raison, l'image qui est donnée aujourd'hui, enfin en ce moment, ces jours-ci du Parti socialiste, est un peu vacillante par rapport à ce que nous avions connu au cours des derniers mois. Je veux croire que c'est un moment de trouble passager. C'est-à-dire que, au fond, nous sommes dans un temps historique, nous sommes dans un temps long. Et il y a de temps en temps des petites aspérités, mais qui, au fond, ne doivent pas nous rebuter. Et je suis convaincue que cette question de primaire, au fond, va vite être dépassée, ou en tout cas des candidatures aux primaires. Alors, le débat, c'est est-ce que les primaires, c'était une bonne chose ? C'est vrai que lorsque nous avons pris la décision...
Surtout si elle doit être dépassée.
C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que nous avons fixé un calendrier. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous nous tenions tous au calendrier qui a été fixé. C'est-à-dire que, en gros, il y aura des candidatures déclarées au mois de juin prochain. Et au mois de juin prochain, un certain nombre de personnalités prendront la décision, sous une forme ou sous une autre, d'annoncer ou pas leur candidature. D'ici là, est-il vraiment urgent, du point de vue du Parti socialiste, du point de vue de ce que nous avons à faire en direction des Français, de nous lancer dans la présentation, enfin, ou de que certains se lancent dans la présentation de leur candidature. Moi, je ne le crois pas. Et donc, je pense sérieusement que, sitôt les annonces de cette semaine passées, bien, nous allons revenir au travail de fond et au travail sur le projet. Parce que ça revient à la question qui était posée tout à l'heure. L'essentiel dans les 6 mois qui viennent, c'est d'être capable de mettre en place un cadre programmatique.
Mais est-ce que vous diriez que les primaires peuvent être le meilleur des systèmes, mais aussi le pire des systèmes,
sans doute,
et qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore de quel côté la pièce des primaires va retomber?
Absolument, mais je pense qu'il y avait un pari, mais que c'était un pari démocratique, et un pari qui, au moment où nous l'avons fait, était sans doute absolument nécessaire pour revitaliser et redonner confiance au Parti socialiste. En gros, c'est là où on s'aperçoit que le temps passe et que la mémoire s'efface très vite, mais le Parti socialiste sortait d'une période calamiteuse, il faut bien le dire, et où, au fond, on avait le sentiment que la bataille entre les personnalités l'avait emportée sur la bataille des idées, éventuellement.
On a tout de même du mal, Marisol Touraine, à penser que cette bataille d'individus ne va pas ressurgir fatalement, d'une certaine façon, à partir du moment où il va falloir choisir son champion.
Oui, j'allais ajouter, on vous parle déjà de bataille d'ego, c'est sorti dans les commentaires de cette semaine.
Oui,
mais à nouveau, vous vous faites enfermer dans ce discours-là.
Oui, mais enfin,
discours-là.
Je veux bien, mais ne soyons pas non plus totalement naïfs. À partir du moment où il y a plusieurs personnalités capables d'exercer la présidence de la République, il est naturel qu'on s'interroge sur la manière de choisir tel ou tel. La question ne se pose pas aujourd'hui à droite parce qu'il y a un président de la République sortant et que la tradition française veut que, sauf catastrophe, le président de la République en place puisse postuler à nouveau. Ça a été le cas pour François Mitterrand, ça a été le cas pour Jacques Chirac. Donc voilà.
Honnêtement,
Marie-Vonne de Saint-Pulgin,
il n'est carrément pas dans le logiciel de la droite d'organiser les primaires.
Alors que il y a d'autres façons
de la gauche.
Il y a d'autres façons de faire.
Sauf que ça a commencé, sauf erreur, lorsqu'il y a eu la... Jospin versus...
Emmanuelli.
Vous savez... ça a commencé quand même. Ça fait déjà un bout de temps que...
Voilà. Oui, mais ça n'est pas...
Oui, peut-être, mais c'était une confrontation...
Mais il y a toujours eu des confrontations...
officielles, avec vote. Il y a quand même une désignation...
Mais il y a toujours eu. Vous évoquiez tout à l'heure, Christophe Prochasson, la première, la deuxième gauche. L'un des congrès les plus historiques dans notre histoire, c'est le congrès de Metz.
Oui, c'était dans les congrès.
Mais il y a eu un arbitrage sur des idées.
Voilà, mais... Marie-Vonne de Saint-Pulgin a raison. Marisol Touraine, il s'agissait d'un congrès. C'est-à-dire que le Parti socialiste avait pris l'habitude, d'une certaine façon, d'accepter que son premier secrétaire, qui avait le pouvoir sur la base, en effet, d'une ligne politique, était celui qui se présentait à la présidence de la République. Est-ce que, ma question est la suivante, est-ce que ce système n'était finalement pas préférable à celui des primaires, où les individus l'emportent finalement sur les programmes, sur la bataille d'idées.
Sur l'émotion, oui.
Oui, moi je ne suis pas certaine que la question ou la sélection par des primaires signifie fatalement le choix de la personnalité la plus, comment dire, scintillante ou proche
2007,
des sondages d'opinion.
Je
ne suis pas certaine, je trouve que ça signifierait que les Français, au fond, se déclarent sur des bases extrêmement peu sérieuses. L'opinion, on ne peut pas à la fois croire en la vertu de l'opinion, de la démocratie, et imaginer qu'à un moment donné, le choix que fait cette démocratie soit mauvais, même si on peut penser que d'autres choix étaient possibles. Et donc, d'une certaine façon, le débat pour nous, il n'est pas de savoir si on va céder aux sirènes des sondages ou je ne sais quoi. Il est de savoir si les socialistes s'en remettent à leurs militants, à ceux qui payent une cotisation pour choisir leur candidat, ou si ils n'ont pas davantage à gagner à ouvrir le processus en direction de la société et de mettre à contribution leurs sympathisants. Donc il y a un pari d'organisation, mais en tout cas c'est la volonté de s'ouvrir d'emblée sur la société. Au nom de quoi est-ce que 200 000 personnes devraient décider de qui est le meilleur candidat pour représenter potentiellement des dizaines de millions de Français.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre vice de construction dès le départ dans ces primaires qui interroge sur la vertu de la démocratie dont vous venez de parler ? C'est qu'on nous a expliqué que deux des personnalités majeures du Parti socialiste, à savoir Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn, s'arrangeraient hors primaire.
Non, parce que...
On avait même parlé de trois.
On avait même...
Oui. Mais apparemment, il y a eu des malentendus sur ce
apparemment,
point.
Apparemment, oui. Il semblerait.
Mais... Apparemment, il y a malentendu.
Oui, enfin...
Fabius avait même dit que lui aussi, il était dans le pacte, sauf erreur. Il avait dit, moi, Martine Aubry et Strauss-Kahn au départ.
Oui,
la première fois qu'on entend parler de ce pacte.
Ça n'est pas parce qu'il y a des primaires qu'il ne peut pas y avoir des candidats qui décident au fond qu'ils se sentent suffisamment proches intellectuellement, idéologiquement, pour ne pas s'affronter. Et précisément, pour mettre en avant un positionnement politique à travers l'une des personnalités, plutôt que simplement un homme ou une femme, je veux dire une personne. Voilà. Donc je ne vois pas de contradiction, honnêtement. Et encore une fois, on ne peut pas vouloir tout et son contraire, vouloir que le Parti socialiste soit rassemblé, uni, et ne vive pas de querelles intestines. Et de l'autre côté, regretter qu'il n'y ait pas davantage de chair et de sang sur les murs de la démocratie française.
Au rendez-vous des politiques, nous sommes donc en compagnie de Marisol Touraine, députée socialiste d'Indre-et-Loire. Quelques questions d'actualité, notamment, je l'ai dit, les questions de protection sociale, de solidarité, qui sont votre domaine au Parti socialiste dont vous vous occupez, et cette présence très forte que vous avez manifestée à l'Assemblée nationale au moment du vote du projet de réforme sur les retraites. Que peut-on en dire aujourd'hui ? Quel bilan faites-vous de toute cette bataille et de ces éventuelles suites, comme je l'ai dit tout à l'heure ? Y en aura-t-il d'abord ?
Oui, il y en aura. Il y en aura nécessairement parce que, contrairement à ce que dit le gouvernement, la question des retraites n'est pas réglée. Et d'ailleurs, je trouve absolument sidérant que l'on ait, au fond, dans les dernières heures du débat, eu la déclaration par le gouvernement que, en 2013, tout serait remis sur la table. C'est absolument incroyable. Et quand on réfléchit à la séquence qui s'était ouverte au début de l'année avec la présentation par le gouvernement des projections chiffrées économiques, notamment celles du Conseil d'orientation des retraites, et que l'on voit d'où on est parti et où on est arrivé, on peut être pris d'un certain vertige. Souvenez-vous, il y a quelques mois, le gouvernement expliquait qu'il fallait se projeter en 2050, que des responsables politiques qui n'allaient pas jusqu'en 2050 étaient tout sauf responsables, précisément, et qu'il fallait faire face à des déficits de plus de 100 milliards d'euros par an. Au bout de quelques mois, nous en sommes arrivés à un projet qui prétendait résoudre les choses à horizon 2018, mais pas un mois au-delà. Et à la fin du débat, on en est resté à 2013. Donc je trouve qu'on a eu là une espèce de rétrécissement de l'enjeu politique et de la réforme qui est spectaculaire. Et donc nous serons nécessairement amenés à remettre la question des retraites et de la protection sociale, mais de la retraite sur le métier.
Mais dans le même temps, c'est une position qu'on peut contester, évidemment, mais n'avez-vous pas le sentiment que la gauche s'est fait enfermer dans le débat autour de ses 60 ans sur laquelle elle s'est arc-boutée pour des raisons peut-être importante sur le plan de la démarche, mais en tout cas, qui ont paru idéologiques. On a beaucoup raconté que nous devenions du coup la risée d'autres pays européens, alors qu'il y avait peut-être là une voie à prendre, qui était presque même une voie à montrer aux autres pays européens, au lieu d'en être la risée, comme la droite a réussi à le faire dire.
Oui, enfin, je ne sais pas comment analyser la chose. Oui, je ne suis pas certaine que nous ayons été la risée. En revanche, je regrette qu'on ait retenu de notre projet que cette seule référence aux 60 ans.
Mais n'en êtes-vous pas responsable, justement, puisqu'il y avait tant d'autres idées à mettre en avant, que vous avez fait, d'ailleurs.
Oui, je ne suis pas certaine que, au fond, nous en soyons seuls responsables. Peut-être n'avons-nous pas suffisamment expliqué, encore que je pense que nous l'avons fait. Mais, au fond, les socialistes n'ont jamais dit que c'était le retour au statu quo ante qui devait servir de ligne d'horizon pour l'avenir. Nous avons indiqué très clairement que pour nous, la question de l'âge était moins significative que celle de la durée de cotisation et que la durée de cotisation qui pouvait être allongée permet de prendre en compte des différences de parcours professionnel, des différences de pénibilité. Au fond, est-il normal qu'un cadre, un ouvrier, quelqu'un qui a eu un métier pénible ou quelqu'un qui a eu un métier de bureau, dans un bureau, contribue pendant la même durée. Pas nécessairement. On peut imaginer que celui qui a porté des choses très lourdes pendant une partie de sa vie, bien qui sûr. A travaillé la nuit, on lui dise, vous allez travailler un peu moins longtemps. Et notre idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'à travers une réforme des retraites, on puisse prendre en compte l'évolution et la différenciation des parcours professionnels et de la réalité sociale dans notre pays. C'est ça que nous voulons mettre en avant.
La question de la pénibilité, c'est ce que je voulais dire, devrait être en avant.
Elle doit être centrale.
Mais est-ce qu'elle l'était même chez vous, au Parti
Socialiste ? Je crois qu'elle l'était, et elle l'était tout au début. Elle l'était dans notre texte qui est sorti avant même celui du gouvernement, et à un moment où le débat public commençait à peine, et où on a vu que, je pense que c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, que le débat public a tourné autour de questions qui étaient des questions éminemment sociales, sociétales, c'est-à-dire pas simplement d'arithmétique comptable, mais qu'est-ce que c'est que le rapport au travail, qu'est-ce que c'est que la pénibilité, qu'est-ce que c'est que la précarité. Et c'est la raison pour laquelle je pense que même s'il a fait passer sa loi, il avait une majorité. Le gouvernement a perdu cette bataille-là parce qu'il n'a pas compris que ce que demandaient les Français, c'était une réforme qui s'adresse à leurs conditions de vie et qui ne soit pas simplement perçue comme une espèce de mise en place d'arithmétique plus ou moins juste.
D'ailleurs. Ouais. Une petite question de gouvernance.
Éric Mandonnet, pardon, puis Marie-Vonne Saint-Pulgent.
Une petite question de gouvernance sur une réforme comme celle des retraites. À partir de ce qu'on a vu là, à partir de ce qui peut se passer après 2012, quelle doit être la place des syndicats ? Jusqu'où faut-il les associer, quoi qu'il arrive ? Parce qu'on va nous expliquer que forcément, les syndicats doivent être autour de la table pour que la démocratie sociale avance. Jusqu'à quel point le pouvoir politique doit-il imposer ensuite ses décisions aux différents syndicats ?
Je crois que la question de la démocratie sociale est une question majeure. Et que la place des syndicats doit être mieux reconnue. Ce qui ne veut pas dire qu'elles doivent s'exercer de la même manière dans tous les domaines. Par exemple, tout ce qui a trait de manière directe ou indirecte au monde du travail doit faire une place majeure et centrale aux organisations syndicales. C'est pour ça que la question de la réforme des retraites doit évidemment passer par des discussions approfondies et longues avec les organisations syndicales. Il n'en est pas nécessairement de même pour d'autres domaines de l'action sociale et de la politique sociale. Alors, est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement doit prendre ses responsabilités? Oui, évidemment. C'est-à-dire qu'un pouvoir politique doit assumer des responsabilités et proposer une réforme. L'enjeu pour lui est de faire en sorte que ce qu'il propose soit néanmoins le plus possible accepté par les organisations syndicales.
Mmh. Une question de Marie-Vonne de Saint-Pulgent.
Oui, je ne suis pas sûre. Ce débat sur la retraite a été extrêmement conflictuel et il est évident que ça laisse des traces profondes dans l'opinion publique. Néanmoins, on est frappé de voir que l'opinion publique n'a pas adhéré à la position du Parti socialiste, n'y croit pas d'ailleurs, comme vous le savez, ne croit pas que sa position était, ses solutions étaient les bonnes, que d'ailleurs il reviendra sur les éléments. Et est-ce qu'on peut quand même se poser des questions sur la position antérieure du Parti socialiste, parce que ça fait très longtemps qu'on dit qu'il fallait se pencher sur le problème des retraites. Or, de fait, seule la droite s'y est collée. D'abord, la première question, c'est qu'il ne s'est rien passé sous le gouvernement de gauche, que quand le Parti socialiste dit qu'il faut effectivement augmenter le nombre d'annuités, il ne l'a pas fait quand il était au pouvoir, c'est la droite qui l'a fait, il a voté contre, et que de ce fait, peut-être qu'il n'était pas forcément très bien placé pour être crédible sur une question où il n'avait pas agi quand il était en mesure de le faire.
Marisol Touraine.
Oui, enfin, votre diagnostic me paraît soit excessivement dur, soit un tout petit peu biaisé. Il n'est pas vrai de dire que la gauche n'a rien fait. La gauche, d'abord, est celle qui a mis la question des retraites dans le débat public avec Michel Rocard. Contrairement à ce qui est souvent avancé, Lionel Jospin a mis en place un certain nombre d'instruments. De ce point de vue-là, la mise en place d'un fonds de réserve des retraites, comme il en existe dans tous les autres pays, alors avec des modes de gestion différents, par exemple des pays dans lesquels c'est gouverné par les organisations syndicales. Mais la mise en place d'un fonds de réserve des retraites pour faire face aux besoins de financement dans la durée, c'est tout sauf une non-décision.
Sauf que le Conseil d'orientation des retraites a constaté que ce n'était pas suffisant, loin de là, pour régler le problème. Vous l'avez dit vous-même, le problème ne peut être réglé que par une augmentation des cotisations. Durée de cotisation. Hein, de la durée de cotisation. Oui. Là-dessus, on le savait déjà depuis 10 ans, 15 ans, il ne s'est rien passé. Jospin n'a pas abordé cette question.
Je n'ai jamais dit que la question des retraites ne pouvait être réglée que par l'allongement de la durée de cotisation. Ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit. Je pense d'ailleurs que ceux qui imaginent qu'une mesure peut régler la question des retraites...
Que c'était indispensable.
J'ai dit que l'allongement de la durée de cotisation me paraissait plus adapté que le relèvement de l'âge comme mesure démographique. En revanche, évidemment, si vous avez un fonds de réserve des retraites créé en 2000, qui à partir de 2002 n'est plus financé, il ne faut pas s'étonner quand on arrive en 2010 de dire il n'y a pas d'argent sur le fonds de réserve des retraites et donc il va falloir que l'on demande aux Français, notamment à ceux qui ont commencé à travailler plus jeunes, de travailler davantage.
Et c'est bien la gauche qui l'avait mise en place.
Et donc moi, je veux dire qu'on ne peut pas... entamer cette rengaine qui a été d'ailleurs très, très diffusée, il faut bien le dire, et qui est presque passée comme vérité de bon sens, que la gauche n'avait rien fait. Alors, pourquoi est-ce que nous disons aujourd'hui que l'allongement de la durée de cotisation est nécessaire alors que nous ne le disions pas il y a quelques années? D'abord parce que nous venions de mettre en place le fonds de réserve des retraites et que nous pouvions penser que ce serait un instrument utile. Et la deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'a fait et à ce que fait encore aujourd'hui la droite, nous ne faisons pas des mesures démographiques les seules mesures d'une politique des retraites. C'est-à-dire que, et c'était notre petit échange à l'instant, l'enjeu, ça n'est pas, comme l'a fait Fillon en 2003 ou comme il vient de le refaire maintenant, tout cibler sur une mesure. On allonge la durée de cotisation ou on relève de 60 à 62 ans. Mais de mettre en place un ensemble de mesures et notamment la mise à contribution des revenus du capital. Donc l'allongement de la durée de cotisation, c'est une mesure parmi d'autres, mais ça n'est en aucun cas la seule.
Et de le lier aussi à la politique de l'emploi.
Indispensable, qui n'en a pas beaucoup entendu. J'ai envie de vous dire, enfin, ça faisait partie de notre projet, qu'aucune politique en direction des retraites ne sera viable si il n'y a pas de création d'emplois et si la croissance ne repart pas, puisque évidemment c'est là qu'est l'essentiel en termes de ressources pour la sécurité sociale et pour les salariés eux-mêmes, parce que s'ils ont des carrières totalement chaotiques, il leur sera difficile de pouvoir bénéficier de retraites solides.
Et si les Français quittent le travail bien avant 60 ans.
Bien sûr.
Un point de détail, quand vous dites les revenus du capital, en fait vous voulez dire plutôt les revenus en capital. capital, si j'ai bien vu. Oui, exactement. Ce que vous
exactement.
Voulez. C'est pas les revenus du capital, c'est les revenus, les salaires sous forme de, enfin les rémunérations sous forme de capital.
Notamment, pas simplement cela.
Vous avez ciblé, mais aussi vous la avez ciblé les stock options.
Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour qu'un certain nombre de revenus aujourd'hui échappent à la contribution à la protection sociale. Au nom de quoi faudrait-il ils sont moins taxés. Ils l'ont pendant longtemps été de façon très très, enfin même nulle. Ils le sont un petit peu aujourd'hui et il n'y a aucune raison, alors que ça devient une part importante de la rémunération.
Beaucoup, hein. Ça commence à l'être beaucoup.
Écoutez, ils le sont moins que les revenus du travail, j'ai envie de dire, que perçoivent les Français moyens qui n'ont ni stock option ni intéressement. Voilà.
Est-ce qu'on peut... Oui, pardon, encore une question de Christophe Prochasson. Oui, qu'on ait aussi le temps de parler de santé. Il y a beaucoup de sujets qu'on a envie de traiter avec Marisol Touraine. Mais
peut-être que ça me permettrait de poser une question. En vous entendant, Marisol Touraine, on est très loin. Vous n'êtes ni le bruit, ni la fureur, ni le tumulte, ni le fracas. Et si je fais allusion à cette phrase mémorable de Jean-Luc Mélenchon, c'est que, au fond, ma question est la suivante. Comment pensez-vous que le Parti socialiste se sort de ce moment des retraites du point de vue de son électorat? Parce que, comme vous le dites très bien, au fond, la réponse est complexe, multiple, composite, et qu'il n'est peut-être pas sûr que, du coup, le Parti socialiste se soit rendu très visible, très lisible à cette occasion par rapport à ceux qui, comme le bruit et la fureur, le tumulte et le fracas, proposent des solutions simples. Il y a, je crois, un vrai problème aujourd'hui pour le Parti socialiste qui explique peut-être sa difficulté aussi à de nouveau accéder au pouvoir.
Certes, mais ceux qui sont les plus fracassants ne sont pas nécessairement les plus crédibles. Et si j'en crois les enquêtes d'opinion qui sortent abondamment en ce moment, ils ne récoltent pas tellement le fruit du bruit et de la fureur qu'ils ont déclenché ou qu'ils pensent avoir déclenché. Et au fond, il me semble qu'ils n'ont pas déclenché d'autre chose que des projecteurs qui se sont braqués sur eux.
Mais est-ce qu'à terme, ça ne peut pas nuire, notamment dans la configuration d'un premier tour électoral à la gauche? C'est-à-dire que le petit caillou Jean-Luc Mélenchon ne peut-il pas vous gêner avec ce type de discours dans le cadre d'une rivalité de premier tour?
Je ne le pense pas, parce que il y a toujours eu et il y aura toujours place pour un électorat qui se sent ou se définit comme plus à gauche que le Parti socialiste. Mais honnêtement, aujourd'hui...
Vous pensez qu'ils sont plus à gauche?
Plus à gauche, qui se définit, lui, comme plus à gauche.
Oui, vous pensez
non, moi, vous savez, moi, je ne le pense pas au sens où, pour moi, la gauche, c'est celle qui garantit la transformation sociale. Et pour garantir la transformation sociale, il faut être capable de mettre en place des politiques de changement, des politiques d'éducation. Et donc, il faut être crédible, parce qu'on peut toujours promettre... la révolution, il est toujours plus difficile de mettre effectivement en œuvre la transformation. Et moi, c'est en tout cas dans ce sillage-là que je m'inscris. Et je n'ai pas le sentiment que les Français, aujourd'hui, attendent qu'on leur fasse de grands discours ou qu'on leur promette des lendemains dont ils ne sont même plus sûrs qu'ils chanteront. Ils attendent plutôt qu'on leur indique la perspective, le cap pour rendre la société française plus juste et plus compétitive. Sinon, d'ailleurs, ils ne plébisciteraient pas comme ils le font à ce point, en ce moment, Dominique Strauss-Kahn.
Du coup, on a envie de vous poser la question de cette égalité réelle qui, sur laquelle, je crois, vote aujourd'hui, jeudi dernier, les militants socialistes. Et au fond, drôle de formulation que cette égalité réelle qui renvoie à de vieux souvenirs. Quel est votre sentiment sur ce sujet,
Marisol Touraine?
Écoutez, moi, je trouve que c'est un très beau terme. On pourrait engager un débat qui serait sans doute trop long pour cette émission, mais l'égalité réelle, c'est au fond ne pas se satisfaire de la promulgation des droits, mais se préoccuper de les rendre effectifs, concrets. À quoi ça sert de dire qu'on a droit au logement si concrètement on ne peut pas se loger? À quoi ça sert de dire que l'école républicaine offre le même droit d'accès à l'éducation pour tous si concrètement, année après année, on s'aperçoit que c'est dans certains quartiers, dans certains milieux, que les enfants vont ensuite vers les filières professionnelles et technologiques? Donc ce qui compte, c'est moins d'affirmer des droits, de poser des droits, que de les réaliser. Et ça, c'est une conception complètement nouvelle de l'égalité. C'est l'égalité des possibles, c'est pas l'égalité des chances, c'est l'égalité des possibles.
C'est vraiment pas nouveau, franchement. Bah, c'était déjà un thème du Parti communiste il y a 50 ans.
Enfin, sauf que le Parti communiste n'en a pas fait, surtout il y a 50 ans, une réalité. On posait des droits.
Le thème de l'égalité réelle, c'est franchement pas nouveau.
Oui, c'est Camus, enfin, notamment la formule le réformisme radical et l'égalité réelle, c'est dans la lignée de Camus. Et pour nous, c'est cela.
Benoît Hamon parlait plutôt de Marx, Marisol Touraine.
Mais oui, mais on peut.
C'est amusant tout de même ce retour de Marx. Vous pensez qu'il y a un retour de Marx dans la culture du Parti socialiste aujourd'hui?
Marx n'a jamais totalement disparu de la culture du Parti socialiste. Et d'ailleurs, il ne devrait disparaître de la culture de personne parce que c'est une référence intellectuelle tout à fait majeure, même si ce que certains en ont tiré a été dramatique. Mais
François Mitterrand, j'ai entendu François Mitterrand dire en 1980, nous sommes tous des marxistes.
Oui, aujourd'hui,
juste
je pense que
à la veille de son
c'était en 1981, oui. Et justement aujourd'hui, je crois que le monde de 2010 est un monde post, disons, mur de Berlin, pour parler simplement. Et donc, nous ne sommes pas dans la même réalité sociale et dans le même monde. Mais en gros, l'idée de faire de la lutte contre les inégalités le marqueur central d'une politique de la gauche, ça reste malgré tout ce qui doit animer le Parti socialiste. Alors, on l'a beaucoup dit, il faut concrètement voir des avancées. Ce qui ne veut pas dire que moi, personnellement, je me retrouve complètement dans le texte qui a été présenté, qui, comme vous le savez, a provoqué un certain nombre de réactions et de débats. Mais l'objectif n'était pas en débat. La définition, la terminologie n'était pas davantage. Ce qui était en question, c'était la manière dont il était décliné.
De toute façon, je rappelle que dans la Constitution de 1946, le principe de l'égal accès de tous, c'est déjà l'égalité réelle. Ce n'est pas le droit, hein. C'est pas l'égalité formelle.
Oui, mais la Constitution ne s'est pas beaucoup préoccupée de rendre effectif l'accès à ces droits.
Autre question, j'y viens d'actualité de la santé, j'insiste un peu là-dessus, je sais que c'est un sujet, comme je l'ai dit, qui vous intéresse. Quelque chose à commenter au sujet de cette journée internationale de la lutte contre le sida, traditionnellement le 1er décembre, une occasion de rappeler la gravité encore de cette maladie que l'on a cru un peu vite disparue.
Oui, je pense que
et
c'est...
peut-être sur aussi la contribution bien modeste des États. Qui a été rappelé.
Oui,
par
je
les
pense que c'est une journée importante parce que le sida s'est banalisé au fond dans les esprits. Et les jeunes générations, notamment, ont le sentiment que le sida, c'était la maladie du temps où leurs parents étaient jeunes. C'est une maladie qui aujourd'hui continue à faire des ravages, même si évidemment en France, on peut vivre aujourd'hui en étant séropositif, ce qui n'était pas possible de la même manière. Il y a quelques années encore. Donc je crois qu'il faut rappeler la nécessité de la recherche, le message sur la prévention, et puis rappeler aussi que le sida, ça n'est pas simplement un problème de santé, si j'ose dire, mais que pour les gens qui sont malades, ça veut dire des problèmes pour avoir un logement, des problèmes pour avoir un prêt à la banque, des difficultés pour avoir un emploi. Et c'est contre ces discriminations aussi qu'il faut lutter. C'est-à-dire que la politique de santé... c'est évidemment accompagner les malades, essayer de les guérir, faire de la recherche pour trouver des vaccins ou de nouveaux traitements. Mais c'est aussi rappeler que les gens qui sont malades sont des gens qui, au-delà des discours bien pensants, sont mis à l'index très souvent de la société. Encore une fois, il n'y a pas que les gens malades du sida. Si vous avez un cancer ou que vous avez eu un cancer, si vous avez un diabète,
c'est
très difficile d'obtenir un prêt.
L'accès des diabétiques à l'assurance.
Obtenir un prêt pour un logement, c'est très difficile.
Oui. Pardon, Éric Mandonnet.
Oui, cette semaine, il y a aussi eu une forte attention du pouvoir, on va dire, sur la problématique de la médecine de proximité.
Oui.
En quoi, et on sent que Nicolas Sarkozy va continuer de s'intéresser à ce dossier dans les prochains mois, en quoi les solutions de gauche se distinguent-elles clairement des solutions de droite ?
Nicolas Sarkozy se réintéresse à cette question-là parce que, en gros, les médecins ne votent plus pour lui. Et donc, il est engagé dans une stratégie de reconquête électorale qui n'est pas nécessairement la plus favorable pour mettre en place des solutions. Parce que le problème, c'est quoi aujourd'hui ? C'est que l'accès aux soins est devenu de plus en plus difficile pour une part croissante des Français. Vous avez des territoires, et je parle en connaissance de cause puisque c'est le cas dans mon département, vous avez des territoires où il n'y a plus de professionnels de santé, mais vous avez aussi des gens qui ont du mal à se soigner parce que les soins deviennent trop chers. À Paris, c'est évidemment flagrant avec des dépassements d'honoraires qui dépassent l'entendement. Ils sont moins élevés en province, mais ils existent. Nous parlions du sida il y a un instant. Je voudrais donner ce chiffre simplement. Il y a plus d'un million de personnes dans notre pays qui souffrent d'une maladie, d'une infection de longue durée, sida, diabète, cancer, pour qui le reste à charge, ce qu'ils doivent payer et qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale ou les organismes complémentaires, est supérieur à 600 euros dans l'année. Donc il y a un vrai enjeu. Et je trouve, pour répondre précisément à votre question, que Nicolas Sarkozy, dans les déclarations qu'il a faites il y a quelques jours, s'est adressé aux professionnels de santé en leur disant en gros, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas changer le cadre dans lequel vous évoluez. La rémunération à l'acte ne va pas être touchée. Votre mode d'exercice ne va pas être remis en cause. Or, je pense que c'est une erreur majeure. Et le Parti socialiste pense que pour résoudre les problèmes d'accès aux soins, pour résoudre la pénurie de professionnels dans un certain nombre d'endroits, il faut évidemment s'engager très fortement et que les jeunes générations de médecins sont prêtes à le faire. Donc le gouvernement, Nicolas Sarkozy, s'appuie sur des médecins en bout de carrière qui sont attachés à un mode d'exercice qui ne correspond plus aux aspirations des jeunes et cela va pénaliser l'ensemble des Français. Concrètement, qu'est-ce que nous proposons ? Nous disons, oui, il faut encadrer strictement les dépassements d'honoraires. Il n'y a absolument aucune raison que la sécurité sociale solvabilise une dérive des honoraires de médecins, en tout cas de façon inconsidérée. Nous devons encourager des délégations de compétences. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'actes que d'autres professionnels que les médecins pourraient accomplir. Est-ce qu'il faut un médecin pour un vaccin, par exemple ? Il faut encourager et inciter à l'exercice regroupé. Les jeunes médecins n'ont plus envie d'être tout seuls dans un cabinet. Ils veulent travailler collectivement.
Ils préfèrent souvent être remplaçants qu'installés.
C'est frappant aujourd'hui.
Oui, c'est un phénomène. Mais que faire surtout pour les déserts médicaux ? Moi, j'avais posé la question à Madame Bachelot lorsqu'elle était venue dans cette émission de savoir pourquoi est-ce qu'on encadrait l'installation de pharmacie et pourquoi est-ce qu'on n'encadrait pas l'installation des médecins.
Mais c'est exactement
et elle
ça.
Elle m'a dit c'est pas possible, c'est inenvisageable, on le fera
oui,
pas.
Oui, sauf qu'on l'a fait pour les infirmières.
Oui,
donc on s'aperçoit là
les
que
médecins,
ce qui est possible
ne...
pour les infirmières ne le serait pas pour les médecins, en tout cas pour ce gouvernement. Et c'était la dernière mesure que je voulais indiquer. Nous sommes favorables à une régulation des installations des professionnels de santé et des médecins. Il n'y a absolument aucune raison pour que tous les médecins aillent en centre-ville où il y a quand même une concentration de dermatologues à Nice que le climat ne suffit pas à expliquer.
Il faudra un certain courage politique, si je vous entends bien, par rapport à ce que vous venez de donner à Nicolas Sarkozy pour affirmer de telles mesures, de, par exemple, de réguler davantage l'installation
des médecins.
Oui, mais
je pense que
cela sera certainement impopulaire dans un milieu réputé.
Écoutez, la question c'est difficile. De savoir comment on le met en œuvre, à partir de quelle génération. Oui. On n'est pas obligé d'imposer des choses.
Il y avoir un cahier des charges.
Voilà, il faut que ce soit, par exemple, en direction des jeunes médecins, des nouveaux médecins qui finissent leurs études. Donc que la règle du jeu soit clairement identifiée. On ne va évidemment pas demander à un médecin qui est aujourd'hui déjà installé, de mettre la clé sous la porte pour aller dans une zone rurale ou un quartier difficile. Mais je pense qu'il faut revoir le mode de fonctionnement de la médecine de premier recours, de la médecine de proximité. Et d'ailleurs, ça aura un impact sur l'hôpital. Parce que si les gens se précipitent aux urgences hospitalières, c'est parce que souvent, il n'y a pas de médecin disponible à proximité de chez eux.
Encore une question autour de la santé, mais elle touche à d'autres domaines. C'est cette affaire du Mediator, un médicament dont on a révélé assez récemment, en France en tout cas, les grands dangers.
Oui,
et
c'est
le nombre de morts, et vous avez.
C'est un sujet, quand même. C'est
là-dessus.
Un sujet, évidemment, à la fois dramatique et majeur, et qui dépasse d'ailleurs le seul cas du médiateur. C'est-à-dire que la question qui se trouve posée, c'est de savoir ce qui a dysfonctionné. Est-ce que c'est uniquement la stratégie du laboratoire qui doit être mise en cause, ou est-ce que les processus de ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire concrètement la surveillance de la bonne qualité des médicaments qui existent, est-ce que ces processus ont été défaillants, et si oui, pourquoi? Donc nous demandons, nous socialistes, nous demandons à l'Assemblée nationale la création d'une mission d'information précisément pour savoir ce qui s'est passé, ce qui était connu, ce qui ne l'était pas. Il ne s'agit pas de faire des procès d'intention et de se substituer à la justice, puisque celle-ci a été saisie par des personnes directement concernées. Mais nous voulons arriver à reconstituer au fond le parcours de ce médicament qui est resté sur le marché alors que d'autres médicaments proches, pas identiques, mais proches, avaient été retirés. Et encore une fois, est-ce que c'est un accident industriel? Est-ce que c'est un
problème d'information peut-être, ou même...
Oui, enfin, c'est un problème d'information, c'est donc ça qui rentre dans le cadre des processus de vigilance sanitaire qu'un certain nombre d'agences sont chargées de vérifier et de mettre en place. Il ne s'agit absolument pas de mettre en cause à ce stade qui que ce soit, mais on ne peut pas chercher, on ne doit pas en tout cas chercher à cacher quoi que ce soit. S'il y a eu 500 morts dû au Mediator, il y en a peut-être eu bien davantage qu'on ne connaît pas. Et c'est quand même une vraie catastrophe sanitaire. Ouais.
Rappelons qu'il s'agit d'un médicament pour diabétiques en surpoids.
Oui, c'est un médicament pour les diabétiques en surpoids et qui concrètement, malheureusement, a été utilisé comme coupe-faim. Et donc, il y a beaucoup de gens non diabétiques qui ont consommé ce médicament pour se faire maigrir concrètement. Et ce médicament se révèle avoir attaqué les valves du cœur et donc provoqué des fragilités et des décès par accident cardiaque.
Nous sommes déjà en fin d'émission. Marisol Touraine, les dernières questions. Et peut-être faut-il vous demander à vous, quelle est, selon vous, l'actualité aujourd'hui qui vous préoccupe le plus ou qui vous paraît la plus porteuse d'avenir dans notre pays ou même au plan international?
Bah, écoutez, je pense qu'au plan européen, international, la crise de l'euro est une... Enfin, ou la crise, en tout cas, de certaines économies européennes est évidemment un sujet de préoccupation majeure. Moi, je voudrais dire que je suis préoccupée de voir comment un certain nombre de personnes aujourd'hui remettent en cause au fond, à la faveur de la crise grecque puis irlandaise, le processus même de l'intégration monétaire et le processus de l'intégration politique. Je reste convaincue que ce qui fait défaut en Europe aujourd'hui, c'est une politique concertée, coordonnée sur le plan économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une monnaie d'un côté et des politiques qui restent nationales. Et un regret, c'est que le plan de sauvetage de l'Irlande, qui était évidemment nécessaire, qui est sur le papier et sans doute dans la réalité un plan ambitieux, repose exclusivement sur une rigueur accrue pour les citoyens irlandais, comme avant eux les citoyens grecs, que les fauteurs entre guillemets de troubles que sont les banques ne sont pas concernés, que la question du dumping fiscal reste là, puisque l'Irlande a un taux d'impôt sur les sociétés qui est de 12 et quelques pourcents, alors qu'il est chez nous 33% par exemple, ce qui est quand même préoccupant.
Est-ce que vous donnez crédit sur cette crise très particulière à Nicolas Sarkozy de faire ce qu'il peut, y compris avec Angela Merkel, qui n'est pas toujours une alliée commode sur ce dossier, pour au minimum parer au plus pressé?
Nicolas Sarkozy a cherché, comme le gouvernement, comme tous les gouvernements européens, à juguler la crise. Il l'a fait avec les autres États européens, avec le Fonds monétaire international. Et donc, je crois que personne n'a intérêt à la contagion de la crise. La question qui est posée, c'est est-ce que, et je pense que c'est le choix de ce gouvernement, du gouvernement Sarkozy, est-ce qu'on ne prend pas un risque à mettre en place des politiques politique de rigueur qui pèse à ce point sur le niveau de vie des citoyens et sur leur capacité de consommation, notamment. Il faut trouver le juste équilibre entre le maintien d'une économie qui soit dynamique et la nécessité d'une certaine rigueur financière. Il me semble que le balancier est allé très loin dans le sens de la rigueur financière.
Mais les toutes dernières questions pour Marie-Sol Touraine.
Est-ce que quand même cette crise ne pose pas la question du périmètre de la zone euro ? Parce que vous dites à juste titre, une monnaie unique impose une convergence des politiques. Nous sommes d'accord, mais est-ce qu'il est véritablement possible de faire converger la politique grecque et la politique allemande, par exemple ?
La question de la convergence des politiques, elle est posée, elle était posée dès le début de l'Union européenne. Il y avait quand même un gouffre entre
tout le monde a été d'accord
et la Belgique.
Personne n'a remis en cause, par exemple, l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Je veux dire, à l'époque, c'était évidemment symbolique, politique, mais est-ce que aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire des révisions sur ce périmètre pour que ça puisse fonctionner durablement ?
Écoutez, moi, j'ai le sentiment surtout qu'on est au milieu du gué. On a le sentiment qu'on met en place des politiques d'intégration et qu'on ne va pas jusqu'au bout de leurs conséquences. Et que donc, au fond, on a mis en place l'euro et on a pensé que l'euro, par lui-même, provoquerait ou accélérerait l'intégration, non seulement économique mais politique. De même qu'on avait pensé dans les années 50 que la mise en place du marché commun provoquerait à elle seule l'intégration politique. Donc c'est évidemment un pas dans ce sens-là, mais ça n'est pas suffisant. Et nous sommes aujourd'hui à une étape cruciale dans un contexte très difficile parce que les opinions sont désabusées et ça me préoccupe énormément. Il n'y a pas d'appétence pour l'Europe dans l'opinion publique.
Alors précisément, on a un peu le sentiment que l'Europe est dans la position de ces chœurs d'opéra qui disent marchons, marchons et qui n'avancent pas. Est-ce que le Parti socialiste met en haut de son agenda justement cette réflexion sur l'Europe qu'on déplore toujours tellement faible au moment des référendums ou des élections européennes ? Est-ce qu'il en fait une priorité politique ? Est-ce qu'il a des propositions ou est-ce qu'il aura des propositions concernant les moyens de relancer la politique européenne. Après tout, Nicolas Sarkozy s'était fait fort au début de son mandat. Et il était en partie, même de façon très inachevée, mais parvenu à sortir l'Europe, en tout cas d'une première ornière.
Le Parti socialiste devra faire de la question européenne une question politique majeure. J'en suis convaincue, pas simplement parce que l'Europe serait, ou pas d'ailleurs, l'intégration européenne serait en elle-même une finalité, mais parce qu'on voit bien aujourd'hui dans les turbulences que nous connaissons que le poids européen est insuffisant. Alors, les turbulences économiques, mais pas seulement. Il est quand même absolument, démoralisant de voir lors du G20 un dialogue entre les États-Unis et la Chine marginaliser la puissance européenne qui précisément est apparue comme une non-puissance. Il est terrifiant, accablant de voir à Cancun, après Copenhague, que l'Europe n'arrive pas à avoir une position unique. Je crois que le temps des États, je ne dis pas que le temps des États-nations est dépassé, je ne crois pas que ce soit dans cette perspective-là que nous nous situions, simplement face à des États continents comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Brésil à certains égards, l'Europe a besoin de se consolider, de se renforcer et c'est pour un avenir plus dynamique, y compris de l'économie et de la politique française, que nous avons besoin de cela.
Et donc besoin de Dominique Strauss-Kahn, Marie-Sol Touraine, vous qui faites partie de ses soutiens.
Oui, je pense que Dominique Strauss-Kahn
on a commencé avec lui, on va terminer avec lui.
Je pense que Dominique Strauss-Kahn serait un excellent candidat. J'espère qu'il choisira de rentrer dans le jeu de la
candidat
politique française.
Parce que la situation économique est ce qu'elle est et qu'elle devrait le rester un moment.
Pas uniquement, je crois que la grande force de Dominique Strauss-Kahn, c'est d'arriver à concilier à la fois de l'imagination sociale, politique et de la crédibilité, du réalisme, du dynamisme économique. Et au fond, notre pays a ça. Nous savons très bien que celui ou celle qui sera élu en 2012, quelle que soit son appartenance partisane, celui-là aura une situation très difficile et très contrainte sur le plan économique. Et donc, il faudra justement être capable d'innover et d'imaginer. C'est ce qu'avait fait Dominique Strauss-Kahn en 1997. Je vous rappelle que la gauche était arrivée dans un contexte difficile et on disait que la situation était financièrement ingérable. C'est pour ça que Juppé avait perdu le pouvoir. On avait dissous, la gauche est arrivée au pouvoir et Dominique Strauss-Kahn a été l'homme du redressement. Et je crois qu'en 2012, ce qu'il faudra, c'est proposer les voies du redressement de la France, redressement économique, redressement démocratique, puis redressement moral aussi, parce que la France ne va pas très bien, je trouve, en ce moment.
Nous vous avons bien entendu. Merci infiniment, Marisol Touraine, d'être venue nous trouver. Marisol Touraine, députée socialiste d'Indre-et-Loire, en campagne déjà, comme la plupart des personnalités politiques. Merci d'être venue nous trouver donc à France Culture avec Marie-Vonne Saint-Pulgent, Christophe Prochasson et Éric Mandonnet aujourd'hui avec vous autour de cette table. Et puis notre équipe de réalisation, Dominique Briffaut, comme chaque semaine, assistée d'Adeline Omeilo cette semaine. Et Laurence Genepin, bien entendu, pour la préparation, la documentation. Très bonne journée à tous, à samedi prochain.